Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, un casse-tête pour l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel qui a remplacé le CSA, a été sommé de mieux faire respecter l'obligation de pluralisme politique par les acteurs de la TNT. Oui, mais comment faire ? Jusqu'à présent, l'autorité chronométrait les temps de parole des responsables politiques qui passent à l'antenne. Mais lorsque les éditorialistes, les chroniqueurs, les sujets traités vont tous dans le même sens politique, quel outil utiliser ? Comment constater un déséquilibre manifeste sans pour autant cataloguer politiquement les journalistes ou universitaires ? Mes collègues Brice Lemley et Aude Dassonville nous expliquent tout ça dans le contexte par ailleurs brûlant du processus de réattribution de 15 fréquences TNT qui s'accélérera en mai prochain. C8, CNews, le casse-tête de l'ARCOM pour mieux faire respecter le pluralisme politique, un épisode produit avec l'aide de Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard. Bonjour Aude, bonjour Brice.
Bonjour Jean-Guillaume.
Bonjour Jean-Guillaume.
Alors, on va essayer de comprendre avec vous aujourd'hui comment l'ARCOM va devoir désormais procéder pour mieux s'assurer du respect du pluralisme politique à la télévision. Première question, comment est-ce que cette histoire commence ? Qu'est-ce qui va pousser l'ARCOM à opérer cette révolution copernicienne de sa façon de décompter les temps de parole ?
En fait, tout est parti d'une plainte de RSF, Reporters sans frontières. C'était en novembre 2021. L'ONG, à l'époque, avait demandé à l'ARCOM de mettre en demeure CNews pour manquement à ses obligations légales d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information. L'ARCOM a répondu par la négative. RSF a donc choisi de monter d'un cran supplémentaire et a formulé un recours auprès du Conseil d'État en avril 2022 pour dénoncer l'inaction du régulateur. Le Conseil d'État a fini par rendre une décision en février, donc le 13 février dernier. Et dans cette décision, elle oblige l'ARCOM à mieux compter. Ça concerne toutes les chaînes de télévision et de radio. Ça ne peut pas concerner que CNews ou C8, mais ça s'adresse vraiment à tous les éditeurs.
Et alors, dans le détail de cette décision du 13 février dernier dont tu nous parles, qu'est-ce que demande exactement le Conseil d'État à l'ARCOM ?
La décision, elle concerne vraiment trois points soulevés par RSF. Le premier point, c'est que Reporters sans frontières a affirmé que CNews était une chaîne d'opinion. Or, le Conseil d'État a plutôt donné un point à Vincent Bolloré en affirmant que c'était bien une chaîne d'information et pas une chaîne d'opinion. Elle s'appuyait sur le fait qu'il y avait des journaux à des heures régulières et donc elle a estimé que c'était une chaîne d'information. Deuxième point, qui a été soulevé par RSF, le fait que la rédaction soit bien indépendante vis-à-vis de son actionnaire. Et le Conseil d'État a demandé à l'ARCOM de travailler sur cette problématique, de trouver un outil pour bien vérifier que l'indépendance des rédactions était réelle. Et donc, troisième point soulevé, le plus important peut-être, le Conseil d'État dit que le pluralisme doit être respecté au-delà du décompte du temps de parole des politiques. Et il s'appuie sur la loi de l'audiovisuel de 1986 qu'il réinterprète face à ce qu'il constate concernant C8 et CNews. En fait, étant donné que certains éditeurs contournent la nécessité du pluralisme en respectant les temps de parole des invités politiques, mais en ayant des éditorialistes, des chroniqueurs qui vont tous dans le même sens, il faut élargir la focale du décompte.
Et alors ? Pour qu'on comprenne bien, restons-y une seconde sur cette loi de 1986. Aude, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'elle est, ce qu'est ce texte exactement, qui oblige donc les chaînes de télévision à faire respecter cette obligation de pluralisme politique ?
Alors, la loi de 1986, elle s'appelle « Loi relative à la liberté de communication ». C'est elle qui a permis d'avoir des chaînes privées en France. Puisque les chaînes diffusées par voie hertzienne dépendent de fréquences et que ces fréquences sont le bien de l'État, eh bien l'État a décidé qu'en échange de leur utilisation commerciale, de l'utilisation commerciale de son propre bien, ces entreprises allaient assurer un service, des programmes, tout en respectant certaines obligations. Tu es trop jeune pour t'en souvenir, Jean-Guillaume.
C'est gentil, Aude.
Mais à son élection à la présidence de la République en 1981, tu as sans doute entendu parler de la libéralisation de la bande FM par François Mitterrand. Il y avait un état de fait, on parlait des radios pirates, il y avait des radios pirates qui émettaient sans autorisation. Et donc, aussitôt qu'il a été élu président de la République, il a mis de l'ordre dans tout ça, en disant « Ok, on accepte les radios privées, mais c'est donnant-donnant, je te donne une fréquence, tu me donnes ta parole que tu n'en feras pas un mauvais usage. »
Et c'est ce qu'expliquait au micro de France Inter en 1982, Albert Eckart, qui était membre de la commission consultative des radios locales privées, c'était l'un des ancêtres de l'ARCOM, qui venait d'être créé et qui était uniquement dédié donc aux radios privées.
Comment procède la commission ? Elle reçoit des candidatures d'associations demandant l'autorisation de créer légalement une radio locale privée. La commission examine les dossiers de candidature. Elle veille à ce que la pluralité prévue dans le programme soit suffisante.
Eh bien, d'une certaine façon, c'est le même processus qui s'est mis en place en 1986, avec donc cette loi, la loi Léotard. La première chaîne, elle a été privatisée un an plus tard, par exemple, et puis M6 a fait son apparition. Enfin, je ne vais pas refaire toute l'histoire du PAF.
Donc concrètement, l'État laisse des acteurs privés émettre sur certaines ondes en échange d'un certain nombre d'engagements de leur part, c'est ça ?
Voilà.
Parmi lesquels le pluralisme politique.
Exactement. Ce qu'il y a dans la loi de 86, c'est que la communication audiovisuelle est libre. C'est la première phrase de l'article 1. Mais, le mais arrive dans la phrase suivante, qui dit « L'exercice de cette liberté doit se faire dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants et pensées d'opinion. » Mais ce respect pluraliste des courants de pensée et d'opinion, eh bien c'est à l'ARCOM d'y veiller. C'est pour ça que les chaînes, quand elles candidatent à l'attribution d'une fréquence, elles signent une convention, un texte, dans lequel elles s'engagent à respecter un tas de points, mais celui-là précisément également.
Ok, donc si je vous suis bien tous les deux, quand on entend dire que CNews devrait pouvoir exister parce qu'il existe bien l'Humanité et le Figaro en presse écrite, ou quand on entend que c'est dangereux qu'une autorité administrative comme l'ARCOM se mêle de la ligne éditoriale d'un média, ce ne sont pas vraiment des arguments au regard de cette loi.
Ça, c'est plutôt les arguments de ceux qui veulent et qui ont intérêt à entretenir la confusion, notamment ceux qui veulent que CNews puisse continuer à creuser son sillon politique. Dans sa plainte, RSF estimait que CNews était une chaîne d'opinion. Or, la loi française ne permet pas ça. Elle ne permet pas qu'il y ait des chaînes d'opinion sur la TNT.
En l'occurrence, par exemple, tu as Le Média TV, qui est plutôt proche de la gauche radicale, on va dire, existait comme une web télé et l'année dernière, elle a été autorisée par l'ARCOM à une diffusion, mais via les téléconnectés, via les box également, mais pas sur la TNT.
D'accord, donc la ligne, elle est là, une chaîne d'opinion, ça ne peut pas exister dès lors qu'on est sur les canaux principaux de la TNT. Et alors, justement, ce déséquilibre éventuel d'un pluralisme politique, comment est-ce que jusqu'à maintenant, l'ARCOM le constate ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, on s'assure du respect de la loi et donc de l'obligation de pluralisme ?
Alors ça, c'est depuis le CSA, hein, bien sûr, l'ancêtre de l'ARCOM, c'est le régulateur, donc il demande aux chaînes de lui fournir un décompte des temps de parole des responsables politiques qu'elles reçoivent. Hors période électorale, on va dire, c'est deux tiers, un tiers. Un tiers pour la majorité présidentielle et les deux tiers pour l'opposition, dans le respect des proportions à l'Assemblée nationale. Ce détail est établi sur une période de 3 mois pour laisser de la souplesse aux médias, le temps de rétablir l'équilibre, c'est-à-dire que tu peux avoir 2 jours de suite des invités de gauche, mais tu rétabliras dans le temps qui t'est imparti pour que le pluralisme soit respecté. C'est comme ça pour tout le monde hors période électorale. Et alors, il y a des périodes spécifiques, comme les périodes électorales, par exemple, à partir du 15 avril cette année, mais les chaînes de télé et les stations de radio devront faire en sorte que les différents candidats aux élections européennes soient traités de manière équitable jusqu'au scrutin.
D'accord, donc ça marche pour les responsables politiques actifs et encartés. C'est facile hein, de décompter, par exemple, le temps de parole de Aurore Berger sur le compte de Renaissance, par exemple. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est de personnalités plus floues ? D'intellectuels, d'éditorialistes, de polémistes ou d'anciens politiques qui ne sont plus ou pas encartés, mais quand même proches d'une famille politique.
Alors encore une fois, si toi par exemple tu es invité sur un plateau de télévision, personne n'ira chercher à mettre tes interventions sur le compte de telle ou telle force politique. C'est pareil pour les universitaires, les artistes, les experts, que sais-je, qui s'expriment sur les plateaux de télévision, sauf bien sûr si par exemple au moment d'une présidentielle, ils ont exprimé une préférence pour un candidat. Dans ce cas-là, ça sera compté pour cette personne-là. Quand c'est aussi explicite, c'est facile. La difficulté, c'est quand tu as des personnalités qui passent de l'un à l'autre. Le cas de Philippe de Villiers, dont on a beaucoup parlé aussi au printemps, est un bon exemple. Il a été secrétaire d'État sous Chirac, il a présidé le parti politique souverainiste Mouvement pour la France, etc., etc. Et récemment, il avait affirmé son soutien à Éric Zemmour lors de la dernière présidentielle. Passé cette période, il était censé avoir abandonné la politique et quitté le débat public. Et puis à la rentrée, il a bénéficié d'une émission hebdomadaire d'une heure diffusée sur CNews et Europe 1. Et donc, il aurait bien fallu que l'ARCOM soit aveugle et sourd pour ne pas tenir compte de son retour dans le champ politique.
Oui, parce qu'il reste un soutien d'Éric Zemmour dans les faits.
Exactement. Les cas de contestation, d'ailleurs, sont pas rares, hein, à droite comme à gauche. Par exemple, il y a Jean-Pierre Mignard, aussi l'avocat, qui a contesté cet automne être décompté sur le compte du PS. Mais l'ARCOM ne pouvait pas faire autrement, finalement, parce que quelques mois plus tôt, lui-même s'était félicité sur X d'accéder au poste de secrétaire général à la justice du Parti socialiste. L'ARCOM ne pouvait pas passer à côté. Donc, il peut faire un recours, mais eux n'avaient pas pris leur décision à partir de rien.
Ok, donc ça, c'est le cadre qui s'applique jusqu'à présent. Des politiques, des presque politiques qui étaient décomptés au chronomètre. Sauf que, vous nous le disiez au début de cet épisode, le Conseil d'État précisément demande à l'ARCOM de changer son mode opératoire face à des médias dont les invités, la ligne éditoriale vont dans un seul et même sens. Alors comment est-ce que l'ARCOM va procéder ?
L'ARCOM est justement en train de travailler sur ce sujet. Toute la difficulté réside dans le fait de trouver le bon outil. Le 13 février, le Conseil d'État a fixé 6 mois pour que l'ARCOM apporte sa réponse, donc on devrait en savoir plus d'ici cet été. Ce qui semble sûr, c'est que l'ARCOM ne va pas ficher l'intégralité des gens qui interviennent dans les médias pour déterminer s'ils sont de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ça serait de toute façon intenable dans un état de droit. Et le président de l'ARCOM, Roch-Olivier Maistre, l'a expliqué sur France Inter fin mars.
Je suis très clair là-dessus. Il n'est pas question de rentrer dans un catalogage, dans un fichage, j'ai vu ce mot utilisé, dans un étiquetage de tous les intervenants sur les plateaux de télévision ou sur les antennes de radio. C'est pas ce que le Conseil d'État nous demande. Le Conseil d'État nous demande d'élargir notre focale, comme on dit en photographie, d'avoir un regard plus large sur l'appréciation du pluralisme et effectivement d'avoir un regard plus global sur l'ensemble des programmes, l'ensemble des intervenants, pour voir s'il n'y a pas un déséquilibre manifeste et durable au principe du pluralisme. C'est
alors,
ça qui nous est demandé.
Ok, mais alors, comment est-ce qu'on constate un déséquilibre manifeste sans pour autant coller une étiquette aux personnalités qui s'expriment ? C'est pas simple.
C'est pas simple, mais comme le Conseil d'État souhaite que soient traqués, j'ouvre les guillemets, les déséquilibres durables et manifestes, eh bien l'ARCOM va s'attacher à ces deux adjectifs, durables et manifestes. On peut imaginer, par exemple, j'en sais rien, mais que l'ARCOM examine une antenne pendant une période donnée, relativement longue, pour apprécier si, dans ce laps de temps long-là, toutes les opinions ont bien été représentées. C'est comme un carottage, en fait. Tu prends une période et puis t'examines, et puis tu vois si tout le monde, toutes les opinions autour d'un sujet ont bien été respectées. Voilà, ça serait dans ce cas-là une vérification a posteriori, ce qui éviterait à l'ARCOM d'être accusé ou soupçonné de vouloir influer sur les lignes éditoriales. C'est pas facile, mais c'est faisable.
Et alors, Aude Brice, toute cette séquence, elle intervient par ailleurs à un moment clé qui n'est pas lié à la plainte de RSF suivie de la décision du Conseil d'État. C'est la remise en jeu des fréquences TNT qui arrive bientôt.
Oui, en effet, c'est le 15 mai prochain que les chaînes de la TNT devront avoir déposé un dossier pour la réattribution de leurs fréquences. C'est historique, hein. Jamais autant de fréquences de la TNT ont été remises en jeu en même temps. 15 fréquences, c'est énorme. Précisément, c'est le jeu de la loi de 1986 dont on a parlé tout à l'heure. Les fréquences n'appartiennent pas aux acteurs privés, elles sont un bien public, et donc on donne à ces acteurs le droit d'exploiter ces fréquences en échange de leur convention.
Ok, donc la concession, quelque part, de l'État à ces 15 acteurs arrive à son terme. Et donc, parmi les acteurs dont le renouvellement est en jeu, il y a aujourd'hui C8 et CNews qui sont par ailleurs dans le viseur de l'ARCOM. Et on peut d'ailleurs parler également de C8, la grande sœur généraliste, qui a fait l'objet de 33 sanctions de l'ARCOM, notamment pour des défauts de maîtrise d'antenne dans les émissions de Cyril Hanouna. Ça a coûté 7,5 millions d'amendes au groupe Canal. Est-ce que ça peut rentrer en compte dans la décision ou non de l'ARCOM de renouveler la fréquence ?
Alors bien sûr, l'ARCOM ne peut pas ignorer qu'elle aura devant elle, au moment de réexaminer cette autorisation, des acteurs qui potentiellement contournent les engagements qui se sont eux-mêmes engagés à respecter. Mais ça ne sera pas le seul. Le président de l'ARCOM, Roch-Olivier Maistre, ne cesse de rappeler qu'il doit aussi tenir compte de l'intérêt du public, par exemple. Est-ce qu'il peut s'arroger le droit, en tout cas son conseil, de priver un certain nombre de téléspectateurs d'une chaîne qu'ils aiment bien ? C'est compliqué à trancher. Et on peut imaginer aussi que le groupe Vivendi, donc de la famille Bolloré, ne se priverait pas de différents recours juridiques s'il n'obtenait pas gain de cause. Et puis après, il y a d'autres critères aussi. S'ils retirent ces autorisations de diffusion, très bien, mais à qui les donner ? Il faut bien qu'il y ait tout bêtement des candidats à leur substituer. Or, lancer une chaîne de télévision, c'est cher, c'est pas donné à tout le monde. Pour l'instant, il n'y a que Alain Veil, tu sais, qui est à l'origine de la renaissance de la radio RMC et de la chaîne BFM.
Mais qui n'en est
BFM
plus propriétaire.
TV, qui n'en est plus propriétaire, exactement. Bon, bah, lui, par exemple, il a déjà annoncé qu'il postulerait pour lancer l'Express TV. Mais enfin, il ne sera pas forcément le seul non plus à candidater. On verra.
Et alors, dernier développement qui se passe en parallèle de tout ce qu'on vient d'expliquer, signe peut-être d'ailleurs de la pression qui monte sur le sujet. Il y a également une commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de la TNT dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours.
Oui, une commission d'enquête qui est présidée par Quentin Bataillon, qui est un député macroniste. Et le rapporteur, c'est un insoumis. Il s'agit d'Aurélien Saint-Toul. Quentin Bataillon a fait beaucoup parler de lui tout récemment parce qu'il est allé sur le plateau de « Touche pas à mon poste », l'émission de Cyril Hanouna. Et il a été interrogé sur le concurrent Yann Barthès, donc Yann Barthès qui est le présentateur de Quotidien sur TMC. Et Quentin Bataillon a critiqué Yann Barthès en disant qu'il avait une attitude assez arrogante.
Je crois que c'est la première fois que je me suis énervé, entre guillemets, vous avez vu que je suis un garçon plutôt calme, énervé sur les auditionnés parce qu'en fait, vraiment, il y a une attitude assez arrogante dès le début. Il refusait de répondre à nos questions.
Comme ça, ça peut paraître plutôt anecdotique. En fait, ça ne l'est pas du tout dans le sens où c'est problématique quand on est président d'une commission d'enquête d'aller sur le plateau d'une personne qu'on a auditionnée récemment. Il se trouve que cette personne, Cyril Hanouna, est l'une des personnes, si ce n'est la personne la plus sanctionnée par l'ARCOM.
Pour aller critiquer un autre auditionné.
Donc, l'opposition ne s'est pas gênée pour critiquer son impartialité. Lui-même a fini par dire qu'il avait fait preuve de maladresse après qu'il ait été rappelé à l'ordre par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui l'a appelé à faire preuve de réserve.
Donc ça, c'est pour le côté polémique. Le président de la commission qui va chez Cyril Hanouna pour critiquer Yann Barthès. Mais alors, quand même, elle sert à quoi de base cette commission ? Quel est son rôle ?
On va dire qu'elle était opportune, c'est-à-dire que sachant qu'il y avait ce calendrier de reconduction des fréquences, le rapporteur Aurélien Saint-Toul a poussé son avantage pour en suggérant cette commission afin d'examiner si les fréquences elles n'étaient pas données un peu facilement, un peu aux copains, sans trop respecter les critères. Parce qu'il y a des gens comme lui qui, évidemment, questionnent le fait que C8 et CNews soient renouvelés. Donc, si tu veux, en organisant cette commission, ça devait permettre d'examiner toutes les questions autour de la façon dont elles sont attribuées.
Et c'est donc ça qui a donné lieu à toutes ces auditions de présentateurs stars qu'on a vu défiler devant la commission d'enquête. Et alors, autant dire que ces prochains mois, tous ces acteurs-là vont être particulièrement scrutés.
Effectivement, il y a eu des auditions de présentateurs, mais de dirigeants aussi, de Canal+, CNews, C8, etc. On a eu aussi les anciens ministres de la Culture. On a eu Xavier Niel aussi, qui l'année dernière avait candidaté parce qu'il souhaitait prendre la place de M6. Donc, les conclusions de toutes ces auditions, elles seront en tout cas dévoilées dans un rapport le 7 mai. Il se trouve que le 7 mai, c'est aussi le jour où ceux qui veulent candidater pourront retirer leur dossier. Effectivement, le calendrier du coup, est un peu espiègle, mais il y aura forcément d'autres épisodes, puisque en juin et en juillet, on examinera les candidatures. Et après, à la rentrée, on aura même savoir si ces fréquences sont réattribuées à nos acteurs.
Et on vous réinvitera pour en reparler. Alors, merci Aude et Brice.
Merci Jean-Guillaume.
Merci Jean-Guillaume.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller lire dès maintenant les articles de Aude Dassonville et Brice Lemley en allant profiter d'une offre spéciale pour vous abonner gratuitement et sans engagement pendant un mois au Monde. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr ou de cliquer sur le lien en description de cet épisode. L'heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.